Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Aujourd'hui, nous sommes dans notre version grand invité de l'économie, RFI Jeune Afrique, avec Frédéric Maury de Jeune Afrique. Bonjour Frédéric.
Bonjour Jean-Pierre.
Nous recevons John Cagnoni. Bonjour John Sala Cagnoni.
Bonjour, bonjour Monsieur Boris.
John Sala Cagnoni, vous êtes vice-président de la Chambre des mines de la RDC. Il y a 13 ans, vous avez fondé Metachem, une entreprise qui produit essentiellement de l'étain, mais aussi, je crois, de la cassitérite. Sur votre compte Twitter, vous vous présentez comme un juriste œuvrant dans le secteur minier. Or, le secteur minier africain en général, et de RDC en particulier, ne nous a pas beaucoup habitués à respecter les règles de droit. À quoi vous servent ces compétences juridiques ?
Écoutez, ces compétences, effectivement, contribuent dans une certaine mesure à voir comment est-ce qu'on peut assainir les secteurs de manière positive et peut-être permettre à ce qu'on puisse bien améliorer la gouvernance dans le secteur minier.
Vous êtes aussi aujourd'hui, John Sana Cagnoni, un des associés à l'origine d'une société qui s'appelle Tembo Power, qui œuvre dans le secteur des énergies renouvelables. Si vous êtes en mesure d'investir dans Tembo Power, c'est que vous avez gagné beaucoup d'argent dans votre activité minière ?
Je ne dirais pas ça tout à fait. On a gagné, certes, mais on essaie un peu de voir comment est-ce qu'on peut répondre à des questions majeures qu'il y a dans le pays, notamment les déficits de l'énergie. Et Tembo Power, effectivement, est un projet de 100 MW qui est situé dans la province, l'ex-province du Katanga. Et nous avons des associés aussi qui sont étrangers, notamment quelques associés français aussi, qui viennent d'ailleurs, quoi.
Sud-africains aussi ?
Non, pas de Sud-africains.
Des Français qui sont-ils ?
Et les Français qui sont-ils ? Nous travaillons avec Monsieur Raphaël Khalifa, qui est français et qui est associé aussi, qui est d'ailleurs CEO de l'entreprise. Nous travaillons aussi avec d'autres associés qui sont basés et ici et en Grande-Bretagne aussi.
Alors au cours de cette émission, nous allons bien sûr parler de l'état du secteur minier en RDC. Nous parlerons de la transparence de ce secteur, de ce qui se passe aux États-Unis et en Europe vis-à-vis des minerais provenant de votre pays. Nous parlerons de la crise économique que traverse la RDC et de ses efforts pour développer sa production électrique. Vous venez d'en parler brièvement. Une première question de Frédéric Maury pour Jeune Afrique.
Alors, Monsieur Cagnoni, vos activités, enfin, votre vie personnelle se passe essentiellement à Goma, donc sur le lac Kivu, dans la région du Kivu. Et le Kivu, c'est une région qui est pas forcément extrêmement connue, où les gens vont pas forcément souvent. C'est une région qui est très éloignée de la capitale de la RD Congo. C'est aussi une région où il y a beaucoup de groupes armés, où l'État congolais est absent, quasiment absent de cette région. Comment est-ce que se passe la vie là-bas, à la fois, comment est-ce qu'on travaille, comment est-ce que les gens vivent, est-ce que c'est très difficile?
Bon, écoutez, Goma est à l'est du Congo, à pratiquement 2000 km de Kinshasa. Nous ne travaillons pas seulement à Goma, nous travaillons certes dans la province du Nord Kivu, nous travaillons aussi dans le Sud Kivu, nous travaillons aussi dans le Maniema. Donc on travaille quand même dans une grande partie orientale de notre pays. Alors, vous avez parlé de quelque chose qui est très très important, comment on travaille là-bas difficilement. Effectivement, avec les concours de notre gouvernement, on essaie un peu de voir comment est-ce qu'on peut d'abord rétablir l'autorité de l'État. C'est la partie Est. Vous connaissez bien l'histoire de notre pays. Ça a été une histoire qui a été très, très, très trouble les 20 dernières années, avec des guerres que nous avons connues et surtout avec une présence des groupes armés. Et c'est ainsi que, de notre côté, on voit un peu avec non seulement les gouvernements, avec la société civile, avec les parties prenantes, avec tout ce qui sont dans la chaîne d'approvisionnement, comment est-ce que nous pouvons contribuer positivement à assainir les climats et permettre à ce que les produits que nous exportons ne soient pas des produits qui concourent au conflit.
John Sana Cagnoni, vous employez toujours la première personne du pluriel, le nous, le on. Vous ne parlez jamais de vous.
Je pourrais bien aussi utiliser les jets si vous voulez, quoi. Ça ne me pose pas de problème.
Alors, on est curieux de savoir comment ça se passe. Est-ce qu'il y a beaucoup d'insécurité? Est-ce que vous dites l'État est absent? C'est-à-dire qu'il n'y a aucune présence de l'État? Est-ce que les choses s'améliorent? Est-ce que c'est vraiment difficile de vivre aujourd'hui, de travailler dans cette région-là?
Non, je dirais pas que l'État est absent, non. L'État est présent. État est présent. Il y a de temps en temps des poches où nous avons des présences ponctuelles et résiduelles des groupes armés. Mais si je dois comparer, par exemple, il y a 15 ans, la situation s'est beaucoup améliorée. C'est vrai que ces derniers mois, il y a quand même une certaine dégradation avec une recrudescence des présences des groupes armés par-ci, par-là. Mais de manière générale, quand même, l'autorité de l'État s'est bien établie et s'est bien développée dans la partie orientale.
Alors, Frédéric Maury, vous demandez quelle est la vie à Goma? Comment est-ce qu'on vit à Goma?
Mais Goma, c'est une ville particulière. Une ville particulière dans le sens où c'est une ville où les gens se lèvent très tôt, travaillent beaucoup, énormément. C'est une ville où il y a quand même une culture d'entrepreneuriat ancrée déjà dans la région depuis plusieurs années. Et comme vous le savez, nous sommes une province qui est essentiellement agricole et pastorale. Dans le temps, les Nord-Kivu étaient le grenier de la République démocratique du Congo, en son temps le Zaïre.
En produisant quoi?
En produisant un peu de tout, l'agriculture notamment, que ce soit les haricots, la pomme de terre et tout ça. Nous sommes
du vivrier qui allait à l'époque à Kinshasa par le fleuve ou
Non, malheureusement par avion. On va peut-être avoir le temps de parler aussi des infrastructures qui sont un très 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 grand défi au niveau de notre pays, par avion essentiellement, mais pas seulement à Kinshasa, dans d'autres provinces à l'époque, Mbujimayi dans le Kasaï, Kisangani par route à l'époque. On avait quand même des routes qui étaient en bien meilleur état qu'ils ne le sont aujourd'hui. Et aussi même jusqu'à Lubumbashi. Ce n'est pas le cas malheureusement aujourd'hui, quoi. Avec tout ce qui s'est passé, non seulement les secteurs ont été complètement affaiblis, dans le sens où il y a eu beaucoup de conflits, il y a eu des migrations de population, et aujourd'hui quand même, ça reprend progressivement. L'élevage aussi.
Vous disiez à l'instant, les gens se lèvent très tôt dans Goma, c'est pas pour faire de l'activité agricole, c'est... comment est-ce qu'ils gagnent?
Il y a beaucoup d'activités. Si vous venez à Goma, vous vous rendrez compte que c'est une ville qui vibre énormément. Aujourd'hui, on a une population qui dépasse 1 million de personnes, du fait aussi de l'exode, du fait de l'insécurité qu'il y a dans la périphérie de la ville de Goma. Les gens sont très, très impliqués dans le commerce, les commerces frontaliers aussi. Nous avons des voisins, comme vous le savez, notamment le Rwanda. En termes de flux migratoires dans des sens, c'est quelque chose quand même qui est extraordinaire, quoi, qui a une dynamique bien particulière.
Alors, sur votre compte Twitter, auquel j'ai fait allusion au début de l'émission, vous avez publié il y a quelques semaines des vidéos et des photos de camions circulant avec les plus grandes difficultés sur ce qu'on ne peut pas appeler des routes, franchement, des pistes inondées dans votre région du Nord Kivu. C'est un sujet qui vous tient à cœur?
Ah oui. Nous pensons bien que pour qu'on ait l'ambition qui est à la tête de notre pays pour aller de l'avant, juste pour vous donner une indication, nous sommes un pays avec 2 345 000 km², un pays pratiquement sous-continent, les deuxièmes pays au niveau de l'Afrique, mais malheureusement avec un déficit criant d'infrastructures. Je vous donne un exemple. Effectivement, les vidéos que nous avons postées, c'est entre les territoires de Masisi et Walikale. Entre Goma et Masisi et Walikale, il y a à peine 150 km. Mais c'est impossible d'y passer pour le moment, quoi. Les routes sont dans un état complètement délabré. Et vous avez vu que ces chauffeurs-là, franchement, on les raccorde beaucoup, beaucoup, beaucoup de respect, quoi.
Oui, parfois, on dirait des véhicules amphibies,
tout
des
à
sous-marins.
Fait. Tout à
parce
fait.
Parce qu'ils sont enfouis sous l'eau.
Tout à fait. Et malheureusement, c'est ça la réalité du Congo profond, où on a des vrais problèmes d'infrastructure, quoi. C'est pas seulement les routes, c'est la même chose par rapport même aux voies ferrées et tout ça. On aura peut-être l'occasion d'en parler. C'est des problèmes qui sont quand même très, très, très sérieux. Pour un pays de la taille qui est la RDC, on pense que c'est plutôt là qu'il faudrait peut-être focaliser pour avoir une ambition de nous développer davantage.
Ce que vous décrivez, c'est un pays bon, évidemment immense et assez fragmenté, où finalement les infrastructures reliant les différentes régions sont très, très faibles, voire parfois même inexistantes. Est-ce qu'il y a quand même un sentiment d'appartenance à la RDC quand on va dans le Kivu ou dans les régions très éloignées de Kinshasa, où finalement on est plus loin de Kinshasa qu'on ne l'est de la capitale de l'Ouganda ou la capitale du Rwanda ou du Burundi?
Non, c'est ça justement la particularité de notre pays. Aussi à loin qu'on soit les uns par rapport aux autres, il y a quand même un sentiment assez particulier d'appartenance à une nation qui s'appelle la RDC, malgré tout le problème que nous connaissons. Et malheureusement, on est obligé, effectivement, comme vous le relevez si bien, de passer aussi par les pays voisins, quoi. Pour moi, c'est plus pratique, par exemple, de passer par Nairobi à travers le Rwanda pour venir ici en Europe ou quitter directement la RDC vers le Rwanda et pour venir en Europe. C'est la même chose aussi par rapport, par exemple, à ceux qui sont à Lubumbashi. De temps en temps, c'est la même chose. Ils préfèrent passer soit par l'Afrique du Sud. C'est ça la particularité de la taille de notre pays.
Mais malgré ça,
pose pas de problème. Malgré ça,
il y a un sentiment quand même
Ah oui. Ça, je peux vous confirmer qu'il y a un sentiment très fort d'appartenance à un pays, malgré tout ce qu'on a connu comme histoire douloureuse ces dernières années.
Pourtant, vous adressez une sorte de reproche aux autorités centrales de Kinshasa. Vous leur dites, la RDC ne s'arrête pas à Kinshasa. Ça veut dire quoi?
C'est une façon d'interpeller nos élites. On aura peut-être l'occasion d'en parler. Il faudrait quand même que nos autorités... On est un pays qui est fortement centralisé, alors qu'en réalité, nous avons une certaine décentralisation depuis quelques années. On aurait quand même voulu qu'on fasse un peu plus attention aussi aux provinces. Comme vous le savez, en principe, chaque province qui produit doit avoir plus ou moins 40% des recettes qu'elle a pu produire, qui devraient revenir aux provinces, quoi. Et ce n'est toujours pas le cas. Malheureusement, Kinshasa a tendance à tout ponctionner. Et c'est comme ça que, de temps en temps, nous, comme opérateurs, on est assez quand même sévère avec notre gouvernement.
Ce qui veut dire que le pouvoir politique est à Kinshasa, mais que aussi le budget de l'État central finalement ponctionne le budget des régions et leur laisse assez peu de moyens pour investir ou pour se développer.
Il y a un système en principe de péréquation qui est mis en place, quoi, qui doit être appliqué. Malheureusement, eu égard à des besoins qui sont très 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 élevés, qui sont très 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 grands, malheureusement on a tendance à oublier les provinces qui produisent, parce qu'il y a des provinces par exemple qui ont un grand potentiel mais qui ne produisent pas autant. Notre province par exemple, le Nord Kivu, est parmi les quatre qui produisent des recettes pour le gouvernement. Mais vous avez d'autres provinces.
Les autres, c'est quoi? Le Katanga, j'imagine?
Les Katanga, il y a la ville de Kinshasa et la province du Bas-Congo, l'ex-province du Bas-Congo qui a été aussi démembrée.
Mais, par exemple, pour le Nord Kivu, qui est votre province, combien est-ce que l'État a investi au cours des dernières années dans les infrastructures?
Pas beaucoup.
Ça veut dire quoi, pas beaucoup?
Écoute, quasiment rien. Moi, je vais vous dire, par exemple, qu'à Goma, on a même mis en place des mécanismes où le secteur privé, en travaillant étroitement avec notre province, on a mis en place des mécanismes pour voir comment est-ce qu'on peut réhabiliter les infrastructures dans la ville de Goma. Alors, il y a des grands projets, par exemple, pour d'autres territoires, comme dans mon territoire des Rutshuru, des routes qui doivent être construites, on attend pour voir un peu ce que ça peut donner.
Mais avec le secteur privé, qu'est-ce que vous allez construire concrètement?
On a construit des routes, en effet, au niveau de la province des Goma. On a essayé un peu de réhabiliter les vieilles infrastructures qu'il y avait. Et si vous passez à Goma aujourd'hui, ce n'est pas le Goma qui était là il y a peut-être 5-6 ans, quoi. Ça change. Mais ce n'est pas le cas. Ça, c'est une initiative, un partenariat qui a été mis en place entre les opérateurs de la province et les gouvernements provinciaux, quoi. Si vous allez dans d'autres provinces comme les sites qui vous, c'est encore plus grave, quoi. Il n'y a rien.
Alors, on l'a dit au début de l'émission, vous êtes un des fondateurs de la société Tembo Power qui opère dans les énergies renouvelables. Vous en avez dit un mot dans les premières réponses que vous avez faites au début de l'émission. Concrètement, quel est votre objectif?
Bon, je suis, comme vous l'avez bien dit, vice-président de la Chambre des Mines. Et ça fait pratiquement plus de 5 ans que nous nous plaignons beaucoup que notre production n'est pas à la taille ou à l'ambition du pays. Et l'un des défis majeurs, c'est quoi? C'est le déficit de l'énergie. Juste pour vous donner une indication, nous sommes obligés carrément d'importer même l'énergie de la Zambie voisine. Et nous sommes même en négociation avec l'Afrique du Sud aussi pour voir un peu dans quelle mesure on peut avoir de l'énergie au niveau de la province du Katanga. Alors qu'on a un potentiel qui est immense, qui est exceptionnel, quoi, qui n'existe nulle part. Je vous donne l'exemple du projet Inga. 40 000 mégawatts. Aujourd'hui, on est en train de parler de la renaissance, du projet de renaissance au niveau de l'Éthiopie, mais ça n'a rien à voir. Nous, on a une capacité de fournir de l'énergie de Cape Town jusqu'au Caire en Égypte. Mais on ne le fait pas. Alors on s'est dit, mais pourquoi pas ne pas réfléchir avec quelques amis. Dans Tembo Power, nous avons d'autres associés aussi congolais. On a réfléchi ensemble, on s'est dit, mais pourquoi pas ne pas voir un peu dans quelle mesure on peut essayer un peu de répondre tant soit peu aux besoins de l'industrie minière. Et c'est une opportunité qu'on a eue, comme vous le savez probablement. On a une loi sur l'énergie. L'énergie est un secteur qui est aujourd'hui ouvert, ce qui n'était pas le cas avant. Et on a saisi cette opportunité pour voir un peu comment est-ce qu'on peut répondre. Tembo Power, c'est un projet de 100 mégawatts, mais on va aller par paliers.
C'est l'hydroélectricité. Hein.
L'hydro.
Parce que le gros potentiel de la RD Congo, c'est au niveau des barrages et des fleuves.
Oui. Et c'est un projet qui est tellement porteur parce qu'on commence déjà à discuter avec même les entreprises minières qui sont très intéressées. Nous avons déjà accompli des études qui avancent très 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 bien avec un peu plus de chances ici à l'horizon 2021.
Mais on a l'impression qu'entre ces projets, alors vous citiez le cas extrême d'Inga 3, qui pour le coup est un éléphant blanc, c'est-à-dire qu'on en entend parler depuis des décennies, donc c'est un projet absolument énorme qui nécessite, je crois, jusqu'à 20 milliards de dollars. Donc. Mm-hmm. Mais sur des projets plus petits comme le vôtre, on a l'impression qu'il y a toujours un écart entre ces projets et puis la réalisation, que finalement il y a toujours un moment où ça bloque. Vous qui êtes confronté à ça, c'est quoi le problème principal dans la réalisation de ces projets?
Bon, je peux dire qu'aujourd'hui, le secteur est un peu plus ouvert. On a une législation qui donne une opportunité d'investissement, ce qui n'était pas le cas il y a 3 ans. Ça, c'est déjà un atout considérable. Le deuxième défi, c'est l'accès au financement. Comme vous le savez, nous ne sommes pas champions dans l'environnement des affaires pour attirer davantage d'investissements.
C'est un euphémisme.
Alors, je voudrais bien dire quand même qu'on fait beaucoup d'efforts et on compose avec les entreprises locales qui sont très intéressées. Juste pour vous donner une indication, l'industrie minière est en déficit de 700 mégawatts, uniquement l'industrie minière. Et là, je suis en train de parler des projets existants. Nous avons d'autres projets de classe mondiale de certaines entreprises qui vont encore avoir beaucoup d'appétit en termes d'énergie, donc ce qui fait que la demande ne pourrait être que croissante. Quoi. On s'est dit, on va se jeter à l'eau, c'est assez laborieux, mais ça évolue positivement.
Donc ce qui fait que ça n'avance peut-être pas si vite, c'est beaucoup un problème de capitaux, c'est-à-dire évidemment ces projets-là, c'est des projets en général de plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de millions.
Des centaines de millions de dollars. Des centaines
donc
de millions de dollars.
Il faut évidemment des financements importants.
Des financements importants, il faut rassurer les investisseurs à l'extérieur et ça évolue très bien. Ça évolue très bien. On est en train de voir un peu comment est-ce qu'on pourra travailler aussi avec la société nationale, la SNEL, et pour voir un peu comment est-ce qu'elle pourra peut-être même servir de transmettre pratiquement cette énergie-là vers les sociétés minières pour essayer un peu de faire aussi une économie d'échelle en termes d'investissement qu'on aura fait.
Il y a beaucoup d'initiatives autour du développement de l'énergie aux États-Unis. Il y a Jean-Louis Borloo, il y a Power Africa. Est-ce que ces gens-là sont utiles? Est-ce qu'ils vous aident?
Ah oui. Ils commencent quand même à avoir une attention particulière par rapport au continent, mais ils ne vous aident que si vous êtes suffisamment avancé. Et nous, on est aujourd'hui dans une position quand même confortable. Nos études avancent très bien. Avec un peu plus de chance, on pourra avoir les droits de concession probablement à la fin de cette année et ça pourra aller vite.
Entre 2005 à peu près et 2015, on dit souvent que la RDC a connu une croissance assez soutenue hein, jusqu'en 2015, qui était entre 5 et 10% par an. Est-ce que c'est pas avant tout Kinshasa qui en a profité et le reste du pays beaucoup moins, ou Kinshasa et Lubumbashi sans doute?
Bon, je vais parler un peu de la croissance effectivement. Quoi. On a une croissance en 2014 qui avoisine les deux chiffres, 9,8, quelque chose d'extraordinaire. L'année d'après, il y a une croissance quand même qui va un peu plus bas, quoi, aux environs de 7%. Ça, c'est en 2015. En 2016, avec la crise économique, surtout la chute des matières premières, nous nous retrouvons dans une fourchette de 2,9. Aujourd'hui, on est en train peut-être d'envisager d'être dans une fourchette entre 3 et 4% à la fin de cette année. Une croissance qui est essentiellement orientée ou qui est basée sur les matières premières, c'est une croissance qui n'est pas très efficace en termes de développement. Quoi. Et c'est pour ça que je pense qu'il est vraiment temps, chez nous aussi, de voir comment est-ce qu'on peut envisager les choses un peu autrement, ne pas avoir une économie qui est tributaire exclusivement de matières premières, parce qu'on ne contrôle absolument rien. Quoi. Il faut réformer. Il faut avoir une autre vision. Et malheureusement, comme vous le soulignez si bien, et c'est Kinshasa qui en a profité. Dans une certaine mesure aussi, quand même, il y avait beaucoup d'ambition par rapport, par exemple, à un projet qui était très important, matière première contre infrastructure, mais ça n'a pas encore donné le résultat qu'il faut du fait de la volatilité, effectivement, des marchés.
Est-ce que le blocage politique que connaît la RDC depuis plus d'un an maintenant, un an et demi, est-ce que ça pèse sur la situation économique? Est-ce que ça aggrave cette situation un peu délicate?
Naturellement, comme vous le savez, nous sommes dans une situation où les gens observent. La RDC, c'est le pays du plus grand potentiel. Il n'y a aucun pays qui a le même potentiel que le nôtre en Afrique. Mais en même temps, les gens observent un peu quelle est la situation politique. Ils sont dans une situation un peu d'attentisme pour voir un peu où est-ce qu'on est en train d'aller. Si les choses évoluent très bien, positivement, et ce que nous souhaitons tous, avoir une transition apaisée, aller le plus rapidement aux élections, j'ai pari qu'on est vraiment parti pour attirer davantage d'investissements. Quoi. Donc cet aspect de la politique qui fait qu'on n'avance pas très vite fait aussi quand même qu'il y ait aussi un ralentissement aussi de l'activité économique.
Donc vous appelez de vos voeux le départ de Joseph Kabila à l'organisation de l'élection?
Non, ce n'est pas que j'appelle au départ de Joseph Kabila. J'appelle plutôt à ce qu'on ait une transition la plus apaisée et le plus rapidement possible.
Mais quand vous dites transition, ça sous-entend le départ?
Non, mais écoutez, je pense que si vous avez suivi très bien l'actualité de la RDC, c'est très clair que d'une manière ou d'une autre, le président ne s'est jamais prononcé qui va rester au pouvoir. Il y a quand même une volonté. Si je suis...
Oui, mais dans les faits, c'est ce qui se passe.
La communication. Dans les faits, aujourd'hui, effectivement, nous sommes dans une situation où nous sommes en train d'observer un peu où est-ce qu'on est en train d'aller. Et moi, je reste confiant que finalement, on va quand même aller vers une transition apaisée, quoi.
John Cagnoni est le grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique. Nous nous retrouvons dans quelques minutes après un flash d'actualité.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI. Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Aujourd'hui, dans sa version grand invité de l'économie, RFI Jeune Afrique, avec Frédéric Maury de Jeune Afrique, nous recevons John Cagnoni. John Cagnoni, vous êtes vice-président de la Chambre des mines de RDC. Vous êtes vous-même producteur minier. Au cours de la première partie de cette émission, nous avons parlé de votre région, le Nord Kivu, de votre ville, Goma, des problèmes d'infrastructure qui se posent, de vos ambitions de développement dans l'énergie. Nous avons aussi vu comment se comportait l'économie congolaise et ce que vous pensiez de la situation politique de votre pays. Mais revenons à ce qui fait le cœur historique de votre activité, le secteur minier. Vous-même, en tant que vice-président de la Chambre des mines, quel est votre rôle dans le pays, dans ce qu'on appelle le scandale géologique qu'est la RDC ?
Écoutez, nous sommes convaincus que le secteur minier est la locomotive de notre économie. C'est le secteur qui contribue de manière un peu plus efficace à stabiliser, par exemple, la situation économique du pays. Mais c'est le secteur aussi qui devrait avoir l'ambition de développer d'autres secteurs. Et au niveau de la Chambre des mines, nous contribuons dans la mesure du possible de voir comment est-ce qu'on peut assainir les secteurs en y apportant une touche particulière, notamment la bonne gouvernance à travers notre code des conduites et d'éthique pour voir un peu comment est-ce que les mines peuvent effectivement contribuer à diminuer un peu la situation qui est très très difficile de 80 millions, de plus de 80 millions de Congolais qui vivent dans une situation de précarité qui est inacceptable alors que, comme vous le soulignez, on est un scandale géologique, quoi. C'est ça le paradoxe malheureusement de notre pays.
Que dit votre code de bonne conduite au sein de la Chambre des mines?
Nous rassurer que nos membres, dans une certaine mesure, adhèrent à des valeurs qui sont aujourd'hui reconnues de bonne gouvernance dans le secteur minier de manière générale. Nous rassurons aussi que nos membres soient des membres qui contribuent à avoir une culture de civisme fiscal, de payer à l'État ce que nous devons à l'État. Nous rassurer aussi à voir comment est-ce qu'on peut jouer quand même un rôle assez efficient dans la diminution ou la réduction de la pauvreté dans le pays à travers ce que nous appelons notre responsabilité sociétale ou les actions sociales que nous posons sur le terrain.
Frédéric Maury pour Jeune Afrique.
Alors, on a souvent dit par le passé que les miniers du Kivu étaient très liés aux groupes armés, les groupes armés dont on parlait tout à l'heure et qui ont beaucoup déstabilisé cette zone et qui continuent encore de manière sporadique à le faire. Est-ce que c'est toujours le cas ? Est-ce que les miniers sont encore toujours très liés aux groupes armés ? Et est-ce qu'on peut voir un lien de financement direct entre les mines et cette instabilité chronique?
Non, je ne crois pas. Au niveau de la Chambre des mines, on a toujours une position qui est un peu plus ou moins différente de celle qui a été développée pendant plusieurs années par les ONG pour créer un lien direct entre nos activités et les groupes armés. Nous pensons que le problème qu'il y avait au Kivu...
C'est-à-dire que vous accusez les ONG de vous reprocher ce lien direct, c'est
ça? Nous avons toujours une position différente par rapport à ces ONG-là.
Elle date d'il y a différente, très, très, très... vous n'êtes pas d'accord avec ces ONG?
On n'est pas d'accord avec... Et d'ailleurs, pour votre information, il y a eu, quelques années, une lettre ouverte qui provenait de plusieurs acteurs, notamment de la société civile internationale, des chercheurs indépendants, des académiques, et d'autres membres de la société civile qui ont effectivement atténué ces concepts-là qui a été très développé pendant très très longtemps par des ONG par rapport à la problématique des minerais de conflit. Les problèmes à l'est du Congo sont liés à d'autres situations. Pas nécessairement. C'est vrai que les mines, dans une certaine mesure, ont contribué de manière indirecte à financer quelques groupes armés, surtout...
Pourquoi de manière indirecte?
Bon, écoutez, avant qu'on mette en place des mécanismes qu'on a mis en place, des diligences raisonnables, des traçabilités, des certifications régionales, on doit reconnaître quand même que les choses n'étaient pas aussi transparentes qu'elles le sont aujourd'hui. Mais la situation a beaucoup évolué. On a adopté ici à Paris un guide de l'OCDE qui pratiquement demande à tous les intervenants qui sont dans la chaîne d'approvisionnement, du petit creuseur jusqu'au consommateur final qui est aux États-Unis, qui est en Asie, de se rassurer que sa production n'a pas un lien direct avec les conflits.
Je voudrais juste un mot sur les ONG, John Cagnoni. Vous pensez qu'elles ont ou qu'elles ont eu un rôle néfaste dans votre région, dans votre pays.
Ah oui. Parce que moi, je vais vous donner un exemple. On a connu quand même un embargo des fêtes à un moment. Les gens avaient pratiquement boycotté le produit qui venait de la RDC.
En 2010, c'est ça?
Oui, exact. Et c'était du fait du lobbying des ONG. Et fort heureusement, certains d'entre eux reconnaissent aujourd'hui que cette approche n'était pas nécessairement l'approche appropriée et reconnaissent aussi aujourd'hui quand même qu'il y a des progrès notables.
Est-ce qu'elles avaient le tort sur le fond ou est-ce que c'est la méthode que vous leur reprochez?
Non, sur le fond, déjà tout était biaisé dès le départ. On disait, voilà, s'il y a des conflits, c'est parce qu'il y a des mines. Non. Les conflits sont des conflits récurrents qui sont du fait des groupes, si vous me passez l'expression, ethniques, qui cherchent à avoir les pouvoirs au niveau de la province de l'Est. Et ça, c'est pas un problème qui commence aujourd'hui. Même nos pères aujourd'hui, qui ont plus de 70 ans, c'est quelque chose qu'ils ont toujours connu, et surtout chaque fois qu'il y avait des échéances électorales. Alors, on a bien surfé dessus. À l'époque, juste pour vous donner un peu d'anecdote, là, pour vous dire un peu comment ça s'est passé, on a eu quand même des acteurs de très haut niveau. Il nous est arrivé de retrouver George Clooney, Angelina Jolie, qui débarquent à Goma pour voir un peu comment ça se passe. Et ce sont les mêmes qui allaient à la porte des très grandes entreprises, des fleurons de l'industrie américaine, en disant, écoutez, vous savez, les gars, vous êtes en train d'acheter des produits qui viennent des groupes armés, vous êtes en train de financer ces groupes-là de manière indirecte. Et les gens se sont désengagés. En se désengageant, c'est des milliers d'emplois, des crésaires, qui ont été pratiquement annihilés. La province qui avait des recettes, où toutes les provinces de l'Est n'avaient plus ces recettes-là. Les gens qui avaient été auprès des banques pour solliciter des crédits se sont retrouvés dans une situation de non-paiement. Ça a été une situation catastrophique.
Alors, qu'est-ce que vous leur dites à ces grandes vedettes, à ces stars, Clooney, Angelina Jolie? Vous leur dites « mind your own business »
Non. On leur dit « voilà, les choses sont en train de changer. Changez un peu votre approche. » Je me suis moi-même retrouvé aux États-Unis à plusieurs reprises. J'ai été au Sénat, j'ai été au Congrès, j'ai été au département d'État pour montrer effectivement qu'il y avait une volonté de la part de l'industrie au niveau de notre pays d'aller de l'avant, d'assainir les secteurs. Et fort heureusement, le rôle que l'OCDE a joué était un rôle qui était très capital aujourd'hui avec les guides que nous avons adoptés.
Vous êtes très engagé vous-même auprès de l'OCDE afin de promouvoir la transparence dans les industries minières de la région. La dernière réunion de l'OCDE sur cette question a eu lieu au mois de mai dernier. Le ministre des Mines du Sud Kivu, Apollinaire Moulimbi, était là, comme bien souvent, il est toujours là, présent à ces réunions. Et il a répondu à cette occasion aux questions de Stanislas Dachimier. Écoutez ce qu'il disait de la situation minière dans le Sud Kivu.
Nous avons 900 sites et pendant 5 ans, il y a seulement 50 sites qui ont été qualifiés, validés. Comme la population est essentiellement une population qui vit des minerais, la population est un peu bloquée. Il faudrait que l'OCDE trouve une formule pour pouvoir valider et qualifier facilement les sites, pour qu'on puisse remettre les gens au travail. Sinon, bloquer ces sites-là, c'est accélérer le chômage. Vous savez que le Sud Kivu, c'est un scandale géologique. La procédure OCDE, c'est qu'il faut d'abord qualifier les sites, il faut les valider, et il faut que le ministre puisse les sortir sur arrêté. Le manque à gagner est énorme, mais vous savez que dans le temps, la Jecamine contribuait à 70% du budget de la République. Il en est de même, par exemple, au Sud Kivu, les mines devraient contribuer à 90% pour le budget. Mais étant donné que maintenant nous sommes un peu bloqués, parce que les ONG internationales qui devraient le faire accusent une lenteur inacceptable, ce qui met la population en difficulté.
Apollinaire Molimbi, ministre des Mines du Sud Kivu, encore accusateur des ONG, sont-elles les grandes responsables des problèmes de la RDC?
Non, on ne va pas dire ça. Nous avons une responsabilité aussi en tant que Congolais, quoi. La politique de bouc émissaire, moi, je ne la partage pas. Avant peut-être de voir un peu comment les choses ne vont pas, on doit d'abord se rassurer si nous-mêmes, on n'a pas une responsabilité. C'est une situation, comme je vous l'ai bien expliqué, qui a posé le problème depuis plusieurs années. Nous nous sommes convenus tous avec toutes les parties prenantes, notre gouvernement, la société civile, les partenaires que nous avons, les partenaires étrangers, pour voir un peu comment est-ce qu'on peut répondre à la problématique des minerais de conflit. Et on y est arrivé. Et parmi les choses qu'il a relevées qui sont assez quand même importantes, nous nous sommes dit que nous devons nous rassurer que l'exploitation s'effectue dans des sites qu'on qualifie des sites verts. Il y a une classification de l'OCDE. Si le site est rouge, on s'y désengage, on ne peut pas y aller. Et les sites rouges, c'est lesquels? Suffisamment d'éléments où il y a une violation massive des droits humains, une présence des groupes armés sur les sites, où des fraudes ou des perceptions illégales des taxes, on se désengage. Et on a des critères pour y arriver. Et ces critères, c'est aussi un travail qui se fait à travers aussi beaucoup d'autres partenaires qui sont en train de travailler étroitement avec les gouvernements pour y arriver. Et quand les sites maintenant sont qualifiés verts, en ce moment-là, on peut se permettre de s'y approvisionner.
Il y a un nom qu'on n'a pas encore prononcé, c'est celui de la loi Dodd-Frank, de la loi américaine qui remonte à 2010. Les États-Unis ont adopté cette législation justement pour enrayer le flux de minerais de la guerre qui finance en principe ces groupes armés. Les Européens ont suivi tout récemment en adoptant un texte au mois de mars dernier. Est-ce que ce sont des textes positifs à vos yeux ou est-ce que il tape à côté?
Bon, je dirais que Dodd-Frank a tapé totalement à côté parce que Dodd-Frank nous a amené vers un embargo des fêtes. Et malheureusement, ça a été une activité qui était très, très, très difficile pour qu'on y arrive. Il a fallu nous-mêmes qu'on fasse un lobbying, qu'on aille aux États-Unis, qu'on aille au Congrès, qu'on aille au département d'État, qu'on aille au Sénat pour leur dire « vous vous trompez totalement ». Mais les Américains étaient pratiquement sous pression des ONG. Il y avait aussi un lobby, il y avait des gens qui étaient très, très, très proches de l'administration à l'époque Obama, avec des entrées qui étaient très solides, et finalement, ils ont fait passer cette loi-là. Alors, aujourd'hui, on peut dire quand même que les côtés positifs et que cette loi-là nous a alertés aussi pour nous rassurer davantage qu'on doit se rassurer qu'on s'approvisionne des sites qui ne posent pas de problème. Moi, je peux dire que c'est le seul côté positif de cette loi-là. Mais en termes des conséquences économiques, ça a été tout un désastre.
Le président Trump évoque l'abrogation de cette loi.
Oui, mais cette loi-là, nous, on ne parle que de la section 15.0D. Elle va au-delà de ça. Il y a aussi d'autres questions qui sont liées effectivement à la bonne gouvernance et tout ça. Effectivement, il y a eu des sociétés américaines qui se sont dit qu'elles étaient dans une situation de compétition qui était très, très difficile parce qu'ils étaient obligés de faire un reporting par rapport à ça. C'est très coûteux, ça c'est des 1. Et alors que si vous allez en Asie, en Chine et ailleurs, ils ne sont pas soumis sous le même régime, quoi. Donc en termes des compétitivités, les entreprises américaines quand même étaient plus ou moins défavorisées.
Globalement, comment se porte le secteur minier de RDC aujourd'hui?
Ces 6 derniers mois, très porteur. Juste pour vous donner une indication, si je dois parler des chiffres en termes des valeurs en dollars des exportations, on parle plus ou moins des 6 milliards aujourd'hui. 6 milliards en termes d'exportation. Nous avons pu quand même bénéficier d'une embellie relative des coûts. Les cuivres se portent très bien. Nous sommes pratiquement les plus gros exportateurs en dehors de la Zambie. Et par rapport au cuivre, les cobalt, nous sommes les premiers, ça se porte très bien, pour l'étain aussi, et pour les colombo-tantalites. Bon, de manière générale, quand même, il y a une bonne reprise.
Ça veut dire que l'économie katangaise, par exemple, est repartie, alors qu'en 2015, elle avait beaucoup souffert?
Ah oui. On est parti sur des bonnes bases, mais bon, il faudrait quand même qu'on surveille ça de trop. Maintenant, lier cette croissance ou cette embellie des cours par rapport au développement, c'est tout un autre débat, quoi.
Et comment vous expliquez finalement que la croissance, on parlait tout à l'heure de croissance congolaise à un peu moins de 3% en 2016, et puis cette année, vous évoquiez des chiffres qui restent quand même assez bas par rapport à avant. Comment vous expliquez que finalement, l'effet d'entraînement soit pas aussi important que ce qu'on pourrait attendre si le secteur minier va mieux, théoriquement, l'économie congolaise devrait aller mieux?
C'est ça les grands défis des économies qui dépendent uniquement du secteur extractif. Et cette particularité-là, elle n'est pas propre à la RDC. Je vous donne des exemples. Nous avons nos voisins. J'ai parlé de l'Angola. Il y a eu les booms du pétrole depuis plusieurs années. Ça s'est très bien passé. Ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, l'Angola aille auprès des institutions de Bretton Woods pour solliciter de l'argent, alors qu'il y a quelques années, c'était l'Eldorado. Vous avez le Congo-Brazzaville en face de nous. C'est la même chose. Vous avez la RDC, la même chose. Vous avez le Nigeria, la même chose. Moi, je reste convaincu que pour que cette croissance soit positive, il faut impérativement réformer notre secteur de l'économie. Ne pas dépendre d'un secteur qui est non seulement limité dans le temps, c'est que les gens oublient les pétroles et les mines s'épuisent au bout d'un moment. Il faut trouver d'autres palliatifs. Et si vous voyez au niveau de l'Afrique, les économies qui ont une croissance assez régulière, c'est des économies qui effectivement ne dépendaient pas du secteur extractif. On a l'Éthiopie aujourd'hui. Une croissance continue depuis plusieurs années. Ça se passe très, très, très bien. Nous avons la Côte d'Ivoire, un bel exemple aussi de croissance. On a notre voisin, le Rwanda, une croissance de 7% depuis les 10 dernières années. Voilà comment est-ce que nous devons nous battre pour voir un peu comment est-ce qu'on doit réfléchir autrement et avoir une économie qui ne dépende pas du secteur extractif.
Quelles sont les leçons que vous retenez de ce qui se passe dans ces trois pays que vous venez de citer, le Rwanda, la Côte d'Ivoire, l'Éthiopie?
Bon, écoutez, c'est des secteurs, il faut changer. D'abord, investir dans les infrastructures. Ça, c'est les grands éléments pour aller de l'avant. Et chez nous, un pays comme le nôtre, 2 345 000 km², comme je vous disais, il nous faut des routes, il nous faut des voies ferrées, il nous faut de l'énergie qui puisse nous permettre à ce qu'on ait une industrie qui consomme et qui produit et qui transforme localement. Ça, on ne l'a pas. Il faut impérativement investir dans l'éducation. Ça, c'est les grands défis qu'il y a. Nous, on a eu la chance d'aller dans de bonnes écoles, mais ce n'est pas le cas pour les jeunes générations. Aujourd'hui, les enseignants qu'on a eus sont en train tous de quitter, ils sont en train de partir.
Où ça ?
Que ce soit l'université, que ce soit l'école secondaire, il faut réformer, donner des moyens à notre système éducatif. C'est très, très important.
Et ils sont en train de quitter, de partir parce qu'ils ne sont pas payés ?
Parce qu'ils ne sont pas payés, parce qu'ils vieillissent aussi. Il y en a qui meurent aussi. Et c'était la crème de l'élite congolaise qui est en train de partir.
C'est une génération qui arrive...
Qui part, qui disparaît. Et ce qui est en train de venir n'est pas une éducation de qualité. Donc il faut investir, mettre beaucoup trop de moyens dans l'éducation. Et on va même au-delà de ça. Nous devons avoir aussi une ambition de nous dire quel type d'éducation nous voulons. Nous devons avoir une éducation qui va vers l'ambition ou les projets que nous avons. L'agriculture, pour votre information, vous le savez aussi bien que moi, les plus grosses réserves arables aujourd'hui du continent sont chez nous.
Les terres.
Oui. Nous avons les tiers de la forêt tropicale chez nous. Nous avons les plus grandes réserves d'eau. Il faut penser à l'agriculture, développer l'agriculture. Il faut penser aussi à d'autres services. Je donne un exemple. Moi, je viens de l'Est du Congo. Dans mon territoire, il y a le premier parc africain, le parc de Virunga. Et d'ailleurs, nous remercions Howard Buffett qui fait beaucoup d'efforts pour voir un peu comment est-ce que ce parc-là peut redémarrer. Voilà des secteurs qui sont porteurs. L'éducation, l'agriculture, les tourismes, les services. J'ai donné un autre exemple. Prenez l'exemple, par exemple, des pays comme Maurice, Cap-Vert et autres. Ou parlons de l'île Maurice. Des services dans le finance vraiment des pointes. Donc, on doit impérativement changer la perception que nous avons de notre économie, la diversifier pour que nous puissions être dans une dynamique qui puisse être pérenne en termes de résultats. Et effectivement, avoir une croissance réelle qui rime avec la réduction de la pauvreté.
C'est un programme de gouvernement que vous développez là ?
Non, mais nous sommes les alliés du gouvernement, nous sommes des partenaires du gouvernement, on ne cesse pas de les dire. Hein. Si on doit dépendre des secteurs extractifs, ça pose problème. Je vous donne un exemple. 80 millions d'habitants, 170 000 contribuables. Qu'est-ce que vous voulez que ça produise ? Dites-moi ce que vous voulez que ça produise. 80 millions d'habitants avec une croissance démographique de 3% an. Alors si aujourd'hui, on ne se décide pas de changer la perception de notre économie, de ne pas dépendre notre économie du secteur extractif, on est mal parti.
Les trois pays que vous avez cités tout à l'heure, le Rwanda, l'Éthiopie et la Côte d'Ivoire, qui sont en effet souvent cités en exemple en termes de, en tout cas pour les deux premiers, un peu moins pour la Côte d'Ivoire qui a quand même connu une crise politique assez longue, mais en termes de durabilité de la croissance, etc. C'est aussi des pays qui sont dirigés par des leaders quand même forts avec des institutions très fortes. C'est un peu quand même l'inverse de la RD Congo. Et vous n'avez pas cité ça. Vous pensez pas qu'il y a quand même un problème de leadership politique aussi dans votre pays?
Non, mais moi je dirais quand même qu'on a aussi l'avantage d'être l'un des pays où on a quand même une certaine ouverture en termes d'expression. D'expression démocratique quand même assez particulière. Mais malheureusement, j'ai comme l'impression qu'il est important aussi qu'on ait quand même un leadership assez fort, qui demande des comptes, qui assainit, qui lutte contre la corruption, qui gère le peu des ressources qu'on a avec beaucoup, 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 beaucoup d'efficacité. Voilà les grands défis que nous avons. Et l'un des grands problèmes chez nous, effectivement, c'est la corruption. Ce n'est un secret pour personne.
Alors justement, on va parler d'une société qui incarne peut-être beaucoup des problèmes que connaît votre pays. C'est la Gécamines, qui est aujourd'hui la compagnie chargée de centraliser les royalties versées par les entreprises minières étrangères. Elle est accusée d'avoir égaré des sommes très importantes qui auraient dû normalement se retrouver au budget de l'État congolais. Comment le vice-président de la Chambre des mines que vous êtes explique ce phénomène ?
Accusé par qui ?
Accusé par des opposants, accusé par des ONG, accusé par des États étrangers.
En parlant des ONG... En parlant même de la Gécamines, effectivement, il y a une ONG qui avait accusé la Gécamines par rapport à tout ce que vous venez d'énoncer là, mais il y a eu une réponse. Je n'ai pas qualité de parler de la Gécamines. Je suis très heureux que vous ayez dit vous-même que le président Yuma, Albert Yuma, qui est le patron du patronat congolais, est un régulier d'ici. Il a qualité peut-être de répondre par rapport à cette question-là comme président du conseil d'administration. Mais ce que je peux vous dire, nous avons aussi des mécanismes au niveau du pays pour répondre à ces questions-là. Nous avons ce qu'on appelle l'initiative pour la transparence des industries extractives litières, qui est une initiative qui représente pratiquement tout le monde, les gouvernements, l'industrie, et la société civile. Et vous pouvez vous rassurer que nous avons l'une des sociétés civiles avec des compétences de très grande classe par rapport à ces questions-là. Et il ne nous laisse pas, comme opérateurs miniers, nous amuser comme on veut.
Il y a quand même eu plusieurs ventes de mines un peu suspectes à l'époque. D'ailleurs, Albert Yumas en était expliqué en disant que ça s'était passé avant que lui-même soit président. Il y a eu des ventes de mines un peu suspectes, notamment à Dan Gertler ou à des proches. Mm-hmm. Ça avait quand même provoqué une rupture des relations économiques, enfin des relations avec les bailleurs de fonds. Donc c'était quand même allé assez loin. Et régulièrement, les bailleurs continuent quand même à dire qu'il y a peu de transparence dans ce qui se passe dans les mines congolaises, et notamment dans les mines qui sont co-détenu par la GECA Mine.
C'est pour ça que moi je vous dis que nous avons un cadre pour régler toutes ces questions-là. L'ITIA, c'est le cadre pour moi privilégié. À l'ITIA, toutes ces questions-là. Je vous donne un exemple. Quand nous devons, par exemple, nous, comme entreprise, publier les chiffres que nous avons payés au gouvernement, ils font la même chose aussi. De leur côté aussi, ils répondent à travers les régies financières pour dire voilà ce que nous avons perçu. Chaque contrat qui doit être signé doit être publié. Et ça se fait. Et je pense que ces questions-là, il faut vraiment les laisser dans ces cadres-là pour voir un peu comment est-ce qu'on peut trouver. Et quand les choses ne sont pas faites, rassurez-vous, la société civile, elle ne nous fait pas de cadeaux.
Alors, continuons à parler de la GECA Mine. Il y a un an, Albert Yuma, le patron de cette entreprise et le patron des patrons congolais que vous avez évoqué tout à l'heure, était dans ce studio au mois de septembre 2016. Et évoquant la GECA Mine, la société qu'il dirige, il estimait qu'un très bon travail avait été fait. Écoutez ce qu'il disait à l'époque.
On a investi près de 140 millions dans des réhabilitations. Et on s'est lancé dans ce qu'on pouvait faire à moindre coût, des transformations par des techniques qu'on appelle les HMS, des modules de production concentrateurs, et la récupération des rejets qu'à l'époque on ne traitait pas des minerais pauvres, mais qu'on pouvait récupérer dans de nouvelles technologies. Voilà ce qu'on a fait. Maintenant, il y a un plan de production qui est basé sur le fait que on a récupéré des actifs importants. On a baissé de 200 millions à peu près nos dettes, mais le drame que nous avons, c'est que nous avons toujours mensuellement une paye de près de 9 millions de dollars. Vous vous rendez compte ce que ça prend déjà pratiquement tout le chiffre d'affaires. Et donc, le plan actuel a deux phases. La réduction des effectifs en accord total avec les délégués syndicaux. On devrait tourner autour de 7 000 maintenant.
De 12 000 à 7 000.
Dans les 12 000, on avait déjà commencé à faire des efforts. Donc, on aura directement 7 000 et à peu près un millier qu'on appelle des externes. Et nous avons décidé de fermer toutes les filières non rentables, obsolètes et même dangereuses.
Albert Yuma, l'an dernier, sur les antennes de RFI, John Cagnoni, vous pensez quoi de cette politique menée par Albert Yuma?
Je la soutiens. Je la soutiens pourquoi? Parce que, comme vous le savez, la GECA Mine était le poumon économique du pays à l'époque. Avec l'ouverture.
Il y a très longtemps.
Oui, il y a très longtemps. Avec l'ouverture vers les capitaux étrangers, effectivement, et la GECA Mine s'est retrouvée partenaire de beaucoup de sociétés. Et le rôle du président Yuma est un rôle qui est très, très, très capital pour voir un peu comment est-ce que l'État aussi peut générer davantage de l'argent. Et d'ailleurs, pour votre information, vous le savez peut-être bien que moi, il a même initié des audits qui vont être faits dans le jour qui vient. C'est dans l'essence de voir un peu comment est-ce que la GECA Mine peut effectivement jouer un rôle capital dans le secteur minier, en permettant aussi à ce que l'ambition de cette société aussi puisse aller de l'avant, quoi. Il y a des partenariats, mais il y a aussi la GECA Mine en soi comme société privée.
Vous avez parlé tout à l'heure des énormes investissements qui sont nécessaires pour les infrastructures en RDC. Et tout ça, ça doit se baser essentiellement sur le budget de l'État congolais. Et je rappelle que le budget de la RDC, c'est le budget de la ville de Paris quand même, hein, pour donner juste un ordre de comparaison à nos auditeurs. Mm-hmm. Sachant qu'il y a 2 millions d'habitants à Paris et 80 millions en RDC. Est-ce que le secteur minier congolais contribue suffisamment au budget public, puisqu'on voit que c'est le premier producteur de cuivre? Enfin, en tout cas, un énorme producteur mondial, et en même temps, le budget congolais est dérisoire.
Je vous ramène vers les rapports ITIA, les tout derniers rapports ITIA. Ils vous diront que 40% effectivement du budget de l'État vient essentiellement du secteur extractif, et particulièrement le mine, parce que notre
industrie... Oui, mais ça n'est qu'un pourcentage, je vous parle en valeur absolue, c'est-à-dire est-ce que les montants sont suffisants? On voit cette polémique sur le rapatriement des 40% des recettes à l'exportation des mines. Est-ce que c'est pas le signe qu'il y a quand même beaucoup d'argent qui se perd dans cette filière et qui devrait aller à l'État public?
On va revenir sur les 40%. Nous sommes à Lubumbashi pendant ce qu'on appelle la semaine minière, DRC Mining Week à Lubumbashi. Nous avons un message qui est très clair, qui vient du président de la République. On nous dit... Les miniers, vous ne rapatriez pas les 40%.
Précisez de quoi il s'agit exactement.
Les 40% des recettes. oui. des recettes.
Que vous faites à l'exportation et que vous devez ramener ensuite dans le pays.
Ramener. Nous avons, notre code minier nous autorise à avoir 60% à l'extérieur et garder les 40%, à répartir les 40% des recettes au niveau du pays. Nous disons au gouvernement que nous le faisons. Les ministères des Mines et les ministères de l'Économie et des Finances travaillent étroitement avec la Banque centrale et se rendent compte finalement que les 40% sont répartis par le minier. Le problème n'est pas là. Le problème est ailleurs. La Banque centrale aujourd'hui chez nous a des réserves de 2 semaines. 2 semaines uniquement, entre 670 et 700 millions de dollars. Ce qui n'est pas bon pour nous. Nous nous disons, comment est-ce qu'on doit répondre à ces questions-là? Nous nous retrouvons encore à Kinshasa, il y a à peine quelques jours, avec 5 ministres. Ministre des Finances, ministre des Mines, ministre de l'Économie, ministre du Plan, ministre près le Premier ministre, gouverneur de Banque Centrale, pour voir un peu comment est-ce qu'on peut répondre à ces questions-là. La Banque Centrale et les ministres nous proposent de nous donner à la place les francs congolais. Nous nous disons, non, ça ne va pas nous aider à aller l'avant. Avec la dépréciation du franc congolais, juste pour vous donner aussi des chiffres, nous pensons qu'on va aller à 40% ou peut-être même 50% de dépréciation du franc congolais en moyenne cette année. Alors, nous nous disons, on peut peut-être trouver une autre alternative. Le président Yuma, effectivement, écrit au ministre des Mines en donnant des pistes de solutions. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, nous sommes très, très, très contents quand même que les propositions que nous avions données, les gouvernements aient pu quand même prendre une des propositions qui va peut-être nous aider à voir comment est-ce qu'on peut stabiliser la situation.
Eh bien, on suivra ça avec attention, John Cagnoni. Merci d'avoir été le grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique. Cette émission est maintenant terminée. On aurait pu en faire une seconde avec toutes ces questions passionnantes. Vous pouvez voir certains extraits vidéo sur nos sites internet respectifs, RFI et Jeune Afrique. Jeune Afrique qui publie également les principaux extraits de cet entretien et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques.
Écho d'ici, écho d'ailleurs sur RFI.